Salut tout le monde, bienvenue dans la salle. Aujourd'hui c'est notre retour, début de la saison 3. Et quel casting je vous ai ramené. C'est même notre casting le plus âgé, j'ai envie de dire. Mais tant mieux, on accueille tout le monde, c'est tout âge, donc c'est cool. Et on va parler d'une série, ma série de cœur, vraiment, j'ai envie de dire. Vraiment, pour ceux qui le sait pas même, c'est vraiment une série qui... C'est grâce à cette série que je suis là devant vous. Genre, je parle de films, c'est une série que j'ai adorée, qui m'a fait rentrer dans le monde. À chaque fois que je regardais cette série, je me disais, mais il faut qu'en fait, je trouve une série qui arrive au même niveau que Fringe pour que je ressente ces émotions, en fait. Et j'ai rarement trouvé de série qui s'en rapproche. Peut-être Person of Interest, voilà, où j'ai beaucoup, mais Fringe est vraiment mon coup de cœur.
Ah, c'est donc de Fringe dont tu parles.
Oui, bien sûr, bien sûr. Quoi qu'il arrive, Fringe, j'ai mon coup de cœur, c'est mon amour éternel que je pourrais revoir et revoir. Et pour en parler, j'ai ramené d'abord un ancien invité qui m'a donné déjà envie déjà de le faire, parce que quoi qu'il arrive, je voulais le faire, mais je ne savais pas quand. Et quand il m'a dit qu'il l'a vu et qu'il a adoré, je pouvais que l'inviter. Donc, bienvenue Ben.
Merci.
Heureux de t'accueillir encore une fois.
Bonjour à tous, merci pour l'invitation, ça fait grave plaisir.
Ouais. Ça fait plaisir de te revoir.
Ah, mais grave.
Moi, j'ai plaisir de parler avec toi.
Toujours.
Et à ma gauche, mon oncle, une personne avec qui, c'est la seule personne avec qui j'ai beaucoup parlé de Fringe. Même des fois, il était contre moi, mais j'ai adoré quand même parler avec lui, arguments et autres. Et là, on va reparler encore là-dessus. Et ça fait plaisir, quoi qu'il arrive. Patrice.
Merci, merci. Bonjour à tous. Merci de l'invitation, jeune homme.
Merci. C'est bien précisé que je suis le plus jeune pour une
fois. C'est en écho à ce que tu viens de dire. Si on est les plus vieux, c'est que tu es le plus jeune.
Exactement.
Nécessairement.
Bon, en tout cas, je sais que j'ai un casting là pour le coup de qualité avec vous deux.
Merci.
Je sens que ça va parler, ça va bien parler en tout cas.
Gros coup de pression.
Non, jamais. On est trop chill pour mettre des coups de pression ici. Nous, on est dans la détente, dans la bonne humeur, comme on dit.
Toujours.
Voilà. Et Fringe qui est disponible sur Prime Video, qui raconte quand un vol d'avion international atterrit à l'aéroport de Boston et que les passagers d'équipage sont retrouvés morts, mais pas de la meilleure façon. L'agent de NAM se voit confier l'affaire. Et va s'en suivre avec des rencontres des plus spéciales, on dit le dire, avec un duo assez spécial, qui est un scientifique très hors norme. J'ai même envie de dire un des meilleurs scientifiques que j'ai pu voir dans ma vie, dans ma carrière. Et son fils, qui vont former un trio pour le FBI et s'occuper d'affaires qu'on appelle des sciences marginales. Et aujourd'hui, les gars, j'ai envie de vous demander quelle place... En plus, je ne vous ai même pas posé la problématique avant. C'est qui est encore plus intéressant, pour le coup.
On marche sans filet, là.
C'est ça, exactement. Quelle place dans l'histoire du cinéma et même, pour le coup, des séries télévisées, placez-vous la série Fringe ?
Tu veux commencer ou...
Vas-y, parce que la fois que j'ai fait, c'est la question.
Ouais, c'est vrai. Alors... Où la placer ? Moi, j'avais déjà eu des prémices avec la série X-Files, tu vois, qui te parlait souvent de problématiques extraterrestres, mais aussi des fois de problématiques scientifiques. Et quand X-Files est un peu quitté les radars de la télévision, comme toi, chercher une série pour me mettre dedans. Et un jour, je vois une bande-annonce qui parle de Fringe, nouvelle série. Je commence à regarder et je vois, il y a la science. Il y a des trucs que tu n'arrives pas à expliquer et il y a une intrigue.
Exactement.
C'est ma série de cœur, tu vois. Elle est même passée au-dessus d'X-Files, tu vois.
Mais c'est, ça, je comprends tout à fait.
C'est devenu incroyable. Et chaque épisode, j'étais là. En plus, c'était bien avec la télé, c'est que tu devais attendre chaque semaine.
C'est vraiment un truc que je regrette au fil des années avec du coup Netflix. Ce qui font que t'attends plus maintenant, tu dois tout voir, c'est quoi, ça, qu'il arrive.
Tu binges alors que t'as plus cette attente. Alors que là, tu voyais
des épisodes. Après, on n'est pas obligé de binger non plus.
Oui, c'est vrai, ça, tout à fait.
Mais le fait que tu puisses le faire, bah, tu le fais automatiquement. Ouais. Parce que tu dis, allez, encore un épisode, encore un. Ouais. Alors quand ça passe à la télé, l'épisode, il est fini, c'est tu fini. Attends.
Bon, après, moi, j'avoue que j'avais le. Bah, quand je l'ai regardé les premières fois, c'était sur TF1 et du coup, t'avais trois épisodes.
Ouais, trois épisodes,
du coup. Bon, après, tu devais quand même attendre la semaine prochaine après les trois épisodes. Mais quoi qu'il arrive, c'était bien. Parce que t'as que vu deux épisodes, tu te dis, bon. Dans deux semaines, il y a les deux prochains. Exactement.
Et puis quand t'as des potes en plus qui suivent la série, t'en parles avec eux. Ouais. Ouais, t'as vu l'épisode. Ouais. Alors qu'est-ce que tu penses? Ah, ça va se passer comme ça. Et la semaine d'après, tu regardes et encore t'en parles. Ça, c'était époque qui était incroyable.
J'avoue que moi, j'ai pas connu ça parce que Fringe, c'était pas une série du coup populaire pour les gens de mon âge, en tout cas. Enfin, c'était très rare de.
Ça passait tard aussi sur TF1.
Ça passait tard, ouais. Fallait enregistrer à la cassette avant les replays. Ouais, c'était pas évident, même pour les jeunes, quand tu leur disais Fringe, ils étaient un peu sceptiques. Le streaming venait d'être en place, hein, peut-être, mais c'était pas.
C'est pas si poussé que maintenant, ouais.
Et du coup, ouais, c'était difficile. Moi, j'ai eu du mal à convaincre, j'ai toujours du mal à convaincre mes amis de regarder Fringe. Maintenant qu'il est disponible sur des plateformes, alors que.
C'est encore plus facile d'accès et les gens encore plus la flemme.
C'est ça, c'est ça. Et franchement, oui, j'ai.
Série de cœur, vraiment, hein. Fringe, c'est une vraie bonne série, hein.
Mais Ben, toi, tu l'as placé effectivement au-dessus de X-Files. Effectivement, moi, je pense effectivement la parenté avec X-Files est évidente.
Non, c'est évident.
C'est évident. C'est vrai que. Mais je pense justement que parce qu'il y a eu X-Files, ils ont réussi à améliorer le truc, en fait. À faire quelque chose qui était. Qui allait plus loin, certainement, qu'X-Files. Parce que tu parlais. Mm-hmm. Moi, je regardais plus la logique de l'énigme, en fait. Ouais. Parce que c'était des énigmes.
C'était, c'est mais en fait, toute la mythologie de Fringe est une énigme. Juste, par exemple, il y a des sigles. Je ne sais plus si vous vous souvenez avec la pomme et l'enfant.
Ouais,
à ce qui paraît, chaque signe, en fait, signifiait une lettre. Et en fait, la lettre disait un mot.
Oui, parce que la pomme, c'était des pépins et c'était des enfants.
Et il y avait des enfants, après, il y avait une fleur avec...
Des fœtus, en fait.
Exactement.
Oui, oui, en fait, il y a plusieurs degrés de lecture. Hein. On peut même regarder aussi. Bon, on va pas. C'était quand, à un moment donné, le générique va changer de couleur aussi. Enfin,
l'univers, ça.
Ça, c'est
Oui, voilà.
Génial, ça.
Ou le passé.
Mais oui,
à
voilà.
Moment,
voilà.
Les épisodes du
voilà,
passé.
Il y avait des codes, en fait.
Les observateurs, la dernière saison. C'est vrai qu'il y avait des codes qui étaient.
C'est très codifié. C'était très codifié. Donc, en fin de compte, ça s'adressait effectivement à une communauté. Moi, effectivement, je suis assez effectivement d'accord sur le principe, même si je pense que la série. Je le dis tout de suite, pour moi, c'est moins bien terminé qu'elle n'a commencé. Mm-hmm. Elle a vraiment une phase ascendante réelle.
Dans la saison 5, en tout cas.
Je la situe vraiment jusqu'à la saison 3. Après la 4, je trouvais que ça commençait à redescendre.
Après, il faut le dire, la 3, c'était la saison où ils ont tout placé, en fait.
C'est ça qui est intéressant.
C'est ça. Et après, la 4, quoi qu'il arrive, la 4 est intéressante parce que...
Oui. Elle poursuit.
Oui, c'est une poursuite et c'est une association où tu t'attendais pas. C'est-à-dire les deux univers qui cohabitent, qui s'entraident parce qu'il y a une menace commune. Alors que quand tu vois tout ce qui s'est passé dans la saison 3, tu te dis qu'il n'y a pas d'entraide.
Mais non. Mais non. Voilà, mais parce que ceux qui étaient. Qui étaient observateurs ne sont plus observateurs.
Ils ne sont plus observateurs. Tout à fait.
ça force un peu la collaboration, finalement, puisque l'idée de base, c'est de nous faire croire que les deux ne peuvent pas cohabiter. Et donc, mais c'est vrai que c'est quand même, moi, j'ai trouvé effectivement très intéressant de pouvoir faire une série qui soit à la fois sur l'énigme, qui puisse explorer autant de logique, autant de mystère. Tout en ayant un but, parce que finalement, ce but, on ne le voit pas tout de suite.
Mmh. C'est ça.
Et on ne voit pas le but tout de suite.
Ça, c'est vrai.
On pourrait dire que voilà,
mais c'est une série. En fait, même à la fin de saison, on comprend le but.
Oui, mais
à la fin de saison.
À la fin de saison, il y a une vingtaine d'épisodes déjà.
Voilà, mais chaque épisode te présente un truc et en fait, une pièce de puzzle que
tu
n'arrives pas à assembler. Et après, tu as certains épisodes qui finissent par rassembler les morceaux.
Bien
et là,
sûr.
Tu dis, ah d'accord, je commence à voir un peu, je commence à comprendre.
Mais c'est ça qui est jubilatoire. C'est ça
pour voir. Et surtout, ce que je trouve beaucoup plus intéressant qu'X-Files, parce qu'il y en a, quand ils vont écouter le podcast, ils vont dire, mais non, X-Files, c'est au-dessus. X-Files, c'était bien, mais tu pouvais pas te projeter des personnages. Mm. Parce que t'avais un Mulder qui était beaucoup trop à l'extrême, vraiment marginal, qui voyait toujours tout de suite un truc inexpliqué. Et d'un autre, t'avais Scully qui était beaucoup trop rationnel.
Rationnel, oui.
Là, t'as des personnages, tu peux te projeter sur certains personnages en te disant, ah bah ouais, bah je pense plutôt comme lui. Mm. Tu vois, alors que X-Files, tu peux pas, parce que c'est trop... des extrêmes.
Tranché, ouais, déjà.
C'est trop tranché. Alors que là, c'est vraiment des personnages qui ont des nuances. Et du coup, tu peux plus facilement y accrocher. Et c'est pour ça que pour moi, Fringe, sauf si X-Files déjà.
Mais même ouais, les personnages, ils sont hyper attachants et tu peux les comprendre facilement en fait. Il y a pas un personnage où tu te dis pas ouais bah il a tort, il a raison. Enfin, tu peux dire il a raison, il a tort aussi.
Mais c'est peut-être aussi pour moi la clé de la réussite de ce, en tout cas de la qualité de ce, de cette série, c'est que au-delà de l'aspect des énigmes, au-delà de l'aspect comment dirais-je, totalement compliqué à comprendre, tout ça, ce qui se met en évidence, à mon avis, c'est la relation avec les gens. C'est-à-dire qu'on crée un lien avec les gens. Parce que chaque personnage a une histoire à raconter.
Ah ouais, ça, c'est vrai.
Et donc, comme il a une histoire à raconter, parce qu'il a des fêlures, il a des blessures,
qui il a un passé, son comportement.
Et qui, voilà, c'est tout un cheminement. Donc, effectivement, quand on regarde ça... En fait, quand tu parlais de s'identifier, oui, on s'identifie parce qu'on est humain. C'est on ça. Regarde les gens, on regarde les... Mais effectivement, qu'aurions-nous fait dans à cette situation
place, exactement.
Des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est pour moi... Même si je trouve que, par exemple, le personnage d'Olivia Dunham, je trouve qu'Anna Torv l'interprète avec une telle froideur. Parce que moi, je trouve que cette fille, c'est quand même fort pour une actrice d'être, pour moi, souvent sans expression. Alors que normalement, on attend d'un acteur, d'une actrice, et elle est quand même suffisamment forte pour... Elle est vraiment poker face, cette fille.
Mais en fait, pour en revenir, du coup, ça, tu le vois surtout dans la saison 1 et 2, où elle est froide, sans émotion. Ouais. Et c'est quand tu vois son double que tu vois une toute autre personne, enfin, tout autre jeu d'acteur, parce que son double...
Elle est obligée de faire deux.
Son double est... Moi, je suis fan de son double.
Ah oui.
Je suis cool. Enfin, c'est une Olivia qui sourit, qui... Elle a une joie de vivre. Et même quand tu la vois avec Peter dans la saison 3, quand elle revient, elle fait l'infiltrer, tu vois que c'est une Olivia Dunham qui a une putain de joie de vivre. Elle dit à Peter, mais viens, on va faire ça. Ouais. Alors que Peter, lui, il se dit, c'est bien. C'est à cause de ce qu'elle a eu comme traumatisme, qu'elle a changé. Mais même lui, il disait, mais c'est bizarre. C'est bizarre.
L'alternative d'Olivia est aussi plus équilibrée.
Ah oui, mais tout à fait.
Elle est déjà plus équilibrée, à mon avis. Ne serait-ce que sa vie privée.
Mais oui,
elle a une vie privée. Anna Torv, Olivia Dunham, celle de l'univers initial.
Elle a été cobaye
Elle a un parcours qui ne peut pas lui permettre d'être de la
exactement.
Même manière. Elle a perdu, même au niveau. Alors, elle a gardé sa sœur, mais elle a plus sa mère, si je me rappelle bien.
Elle n'a pas sa sœur, mais elle a sa mère. Et dans cet univers, elle n'a que sa sœur.
Donc, chacun ramène, il charrie un certain nombre de blessures, machin, qui font que tu as des trajectoires. Quoi,
vraiment le côté univers parallèle où tu revois un peu. J'adorais du coup la fin de la saison 1. Hein,
ouais.
C'est un des meilleurs twists que j'ai vu dans ma vie.
Évidemment.
Surtout que on était à quoi, 2008, et peut-être 7 ans après. Et même moi, je m'en souviens de ça. Et tu vois Olivia Dunham qui regarde par la fenêtre et qui voit ça. Et tu te dis, mais pourquoi en fait il y a des tours? Parce que même le concept du multivers, je le connaissais absolument pas.
Mais ils l'ont posé là.
Ouais, et là ils l'ont posé là. Et toute l'explication qui arrive dans la saison 2 dessus, en disant que chaque choix qu'on fait dans l'autre, c'est un choix différent. Tu comprends, et que tu te dis en fait là-bas, c'est pas les tours Wall Street qui ont été touchés, c'est les deux autres qui devaient être destinés à l'attentat.
C'est ça.
Parce que même moi, je savais pas qu'en fait il y avait quatre cibles pour les attentats. C'est grâce à Fringe que j'ai appris qu'en fait. Il y avait l'attentat en fait ciblait aussi le Pentagone et la Maison Blanche.
Ah bah oui.
Et dans Fringe, il t'explique que c'est la Maison Blanche et le Pentagone qui ont été touchés. Voilà. Et j'ai adoré ça.
C'est incroyable.
Mais franchement, j'ai dit, et ils ont une manière de faire qui font que c'est génial en fait.
Ils s'adressent aussi d'abord à l'imaginaire des États-Unis.
Ah oui, tout à fait.
Et les États-Unis, effectivement, ça leur parle. Forcément, ils ont encore le traumatisme, comme tu dis, 7 ans après. 7 ans. Oui, 7 ans après. Et puis finalement, ils sont en train de dire aux gens, en fait, parce que tout de suite, c'est un code qui parle à tout le monde. En tout cas, tous ceux qui ont vécu cette période-là. Et montre effectivement, comme tu dis, le multivers et le rapport qui est là avec William Bell, cette intrigue et tout. Et ça pose effectivement, c'est ça qui est intéressant, ça pose la série parce que tu te dis tout ce qu'il y a eu avant, tous les mystères qu'il y a eu avant, en fin de compte, ça t'amène à aller vers un autre chemin tout en gardant le même et en gardant ce chemin-là. Et là, tu te dis qu'en fait, elle a des tiroirs, elle a des choses à dire, elle a encore. Et tu te dis, mais comme tu dis, c'était le twist, la deuxième saison, tu as envie de la voir. t'es pressé de la revoir. Oui,
mais en fait, même tous les twists, j'avais envie de les voir.
Mais de fou.
Parce qu'il n'y a pas un twist, même celui de la saison 4. Parce que, quand tu... bah, en fait, le problème de peut-être la saison 4, c'est que ils avaient fait un épisode un peu, comment on peut dire ça, séquel.
C'est ça, déjà.
Ils avaient fait un épisode séquel avant la fin de saison. Voilà. Donc, du coup, tu comprenais pas qu'est-ce que cet épisode faisait. Mais après, quand tu vois le final, tu dis, ah, ok, ça. Oui, ok, il y a peut-être y a quelque chose qui arrive. Mais le plus grave, c'est que quand je me suis refait la série, j'ai compris qu'en fait, cette guerre, elle est préparée depuis la saison 2.
C'est ça.
Et ça, c'est là que j'ai câblé, parce qu'il y avait un épisode, je ne sais plus si vous vous souvenez, c'était des bombes humaines. Et c'est un général qui avait fait ça. Et il disait
que. Avec les valises, là, dans le.
Exactement,
dans le train,
il devait
là.
Prendre des valises. Ouais. Exactement. Mmh. Et c'est un gars qui créait des bombes humaines à partir de soldats. Mmh. Et en fait, bah, tu ne comprends pas. Et à la fin, il dit bah, en fait, j'ai créé ces bombes parce qu'on a des ennemis qui ne sont pas encore arrivés, mais qui sont en train de nous observer. Voilà. Et ça, tu le sais depuis la saison 2. Mmh. Mais en fait, comment tu peux le savoir? En fait, tu te dis bah, en fait, les observateurs. Tu les connais que parce qu'ils observent.
Voilà.
Mmh. T'as même des moments, t'as des épisodes où tu t'es touché par les observateurs. Y a l'épisode bah, du coup, où un des observateurs, il veut sauver une fille parce qu'il l'a tellement observée qu'il est tombé amoureux de la fille.
Ouais, c'est vrai.
Alors et que normalement, ils ne doivent pas avoir d'émotion, tu
c'est
vois.
C'est ça. Et là, tu te dis...
Quand ils en développent.
Et c'est ça. Et quand tu fais le lien avec cet épisode, tu te dis, mais je ne comprends pas pourquoi c'est notre ennemi alors que... Il a sauvé une fille qui devait mourir dans un crash d'avion.
Je pense aussi que c'est les termes utilisés qui président en fait à notre réflexion et à notre compréhension. C'est-à-dire que comme on les a appelés les observateurs, on est déjà conditionné. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les voir autrement que comme des gens qui sont neutres en fait, alors que ils le sont pas nécessairement. Ouais.
On le voit après.
On le voit après. Mais comme on nous le présente comme observateur, donc effectivement, on est guidé.
Il est où le personnage ? Septembre. Souvent, lui, il le dit, on est neutre. On ne doit pas intervenir.
Et lui, c'est lui qui a le plus intervenu.
Il intervient quand même quelques fois, mais il dit que, de toute façon, on est censé observer, on est neutre. Il te conditionne, toi, en disant, ah, mais de toute façon, ils sont neutres. Donc, ils ne vont rien faire, à part peut-être aider de temps en temps. Et
quand tu les vois, tu te dis, mais qui sont-ils, en fait ? Quoi qu'il arrive, parce que... On te les présente depuis les premiers épisodes.
On les voit, passer.
En fait, t'as quand même le côté multivers. Tu te dis, mais en fait, à quoi ils servent, quoi qu'il arrive. Et tu vois, en fait, tout le découlement qui est... Moi, je le trouve hyper bien mené quand même. Enfin, il y a une certaine structure. Après, il y a des éléments qui manquent, quoi qu'il arrive, bah, pour bah, du coup, la saison 5, où t'arrives dans une saison 5 où on te plonge un peu dedans, même s'ils ont essayé de te le dire, mais c'est... succinct.
C'est
le problème, c'est trop succinct. Alors qu'avant, ils te le présentaient d'une manière très bien élaborée.
C'est ça.
C'est peut-être aussi.
On sent que.
Je pense. Alors, excuse-moi, j'ai été coupé. Je pense que soit c'était un problème de budget, soit une question d'annulation.
Et oui, je pense que c'est
surtout ça.
Ils ont voulu tout mettre sur la fin. Et pour moi, ils auraient dû prendre le parti de faire, malgré tout, comme les autres saisons, de mettre plein de pièces séparées et regroupe à la fin pour que ça prenne son ensemble.
Bah après, comme tu vois.
Ouais, mais je crois que le showrunner a changé déjà pour le dernier épisode, sur la dernière saison. Et je pense, comme tu dis, c'est à la fois budget et annulation. Annulation, à partir du moment où tu es de l'annulation, tu as forcément du budget en moins.
C'est ça.
Et c'est le propre. C'était une chaîne, c'était quand même une série qui était sur la Fox. La Fox, qui d'ailleurs qui faisait X-Files d'ailleurs aussi. Donc c'est une chaîne.
C'était de la période. Lost avait. Non, c'était la même période à peu près.
La même période, il me semble.
Enfin, en tout cas, ce qui concerne Fringe, c'était quand même une série qui arrivait effectivement à sa cinquième saison. Ils n'avaient pas l'intention de le renouveler. Et comme c'est une chaîne qui est une chaîne publique, enfin, c'est une chaîne visible hertzienne, c'est pas une chaîne du câble. Donc là, c'est simplement le coup près. Si t'as pas de machin, c'est de dégage.
En fait, je crois que ça a été sauvé par les fans.
Et si tu regardes bien, je termine là-dessus, c'est que c'est quand même une saison à 13 épisodes.
Ah oui.
Ça montre bien que de toute façon, ils ont réduit le budget et qu'il fallait terminer.
Pour le coup, ça fait comme Person of Interest sur la fin.
Mais en fait, malheureusement, c'est souvent ce qui arrive quand. C'est très rare d'avoir quand même des séries, surtout sur des séries qui sont sur des chaînes hertziennes. Qui sont déjà écrites avec un début, un milieu et une fin qui est déjà bien. Par exemple, je pensais éventuellement à Breaking Bad, on sent bien que, d'ailleurs, le showrunner avait dit que de toute façon, il allait faire 5 saisons, il a vendu pour 5 saisons, il ne fera pas 6e saison.
C'est comme celui de Mr. Robot aussi, qu'il avait fait, quand il avait écrit Mr. Robot, il avait dit, moi, je vois C'était 4 saisons et il a fait ses 4 saisons. Voilà. Ouais. Il n'a pas fait plus.
C'est mieux d'ailleurs. Mais c'est vrai que le problème, c'est que des fois, il y a l'appât du gain. Les mecs
à l'époque, je pense qu'à l'époque, quand ils ont sorti Fringe, ils pensaient peut-être pas que ça allait du coup fonctionner autant.
Oui.
Ils étaient partis sur une trajectoire, ils ont dit ah bah ça fonctionne, bah tiens, ça veut dire qu'on peut parler de ça. Ouais. Et du coup, ils ont commencé à élargir.
Non, ils ont ouvert des chantiers qu'ils ne pouvaient pas refermer ensuite.
Ils ont pas réussi à refermer, c'est dommage.
Je suis tout à fait d'accord.
Non, mais c'est clair. C'est clair. Mais c'est vrai que c'était. Moi, je trouve effectivement que c'était très intéressant sur l'aspect de la dynamique des acteurs qui étaient là, qui tenaient le truc, même si au départ, effectivement, comme je dis, on cherchait toutes les connexions. Je me suis posé la question longtemps, mais pourquoi Peter était là? Parce qu'il ne pouvait pas être que l'accompagnateur de son père, en fait, à un moment donné.
Je crois que Peter est vraiment un des meilleurs moments, en fait.
Il est central, oui, à un moment donné.
Ouais. Non, mais c'est là, central. En fait.
Il devient central. Mais au début, on se dit, mais pourquoi il est là, quoi?
Parce qu'on comprend pas, et après, à part le trouver intelligent, mais on le trouve moins intelligent que son père, quoi. Enfin, tu le sens, en fait.
Bien
face
sûr.
À son père, en fait, Peter, il avait ce côté aussi de traducteur. J'adorais ce côté-là où... Quand Walter parlait, lui il était là, il disait
tampon,
ouais, voilà, c'est ça. Voilà, je me souviendrai toujours du premier épisode quand il dit oui, moi je veux ça et ça et ça, et après il le dit de les noms scientifiques, et lui il dit mais c'est quoi tout ça. Après il dit il veut une vache en fait, tout simplement.
Pourquoi il le dit pas, c'est comme ça.
Ouais, voilà.
Mais c'est trop fort.
Parce qu'il a aussi des traumatismes, Walter.
Walter
quand même, il a fait 17 ans de prison, je crois.
Ouais, 17 ans. Aussi, faut rappeler que Walter aussi, on lui a prélevé un bout de cerveau, parce qu'il voulait oublier. Il voulait oublier comment ouvrir un portail entre les deux mondes.
Ouais, c'est ça.
Voilà.
Mais et qu'il était associé à William Bell. Qui lui s'est retrouvé de l'autre côté. De l'autre côté, et c'est ça aussi. C'était effectivement, en fait, finalement, c'est l'œuvre d'une vie et l'aspect sentimental qui entre dans ça, parce que finalement, c'est tout le côté scientifique, tous les côtés de l'émotion, tout ce qui était rationnel qui doit s'affronter finalement un côté émotionnel.
Ah oui.
Parce que lui, effectivement, il est obligé, il se sent en fait obligé parce qu'il a un deuil. Ce deuil-là, il commet aussi l'irréparable à partir de là.
C'est ça.
Et voilà, quoi.
Je suis tout à fait d'accord.
Et moi, je trouve que c'est très fort parce que tu te dis, à la place de Walter, qu'est-ce que tu aurais fait?
Exactement.
Est-ce que tu aurais pris le risque de faire ce qu'il a fait? Tu vois? En sachant que, voilà.
Faut rappeler que Walter, il n'avait pas un but de kidnapper l'enfant. Non. Il avait un but de soigner. Ça veut dire, il venait.
Le ramener.
Et c'est ça.
Mais quand il a vu sa femme.
C'est sa femme, en fait, qu'il a.
Voilà. Ouais, il a vu comment la femme, elle a vu le petit. Il a dit, bon, vas-y, on va le laisser.
C'est ça.
Et voilà.
C'est un petit peu facile quand même, parce qu'il. Sa femme, elle a mon dos.
Oui.
C'est-à-dire que dans ces conditions, si tu veux le soigner, tu t'organises pour pas le soigner, pour qu'elle le voie. Parce qu'à partir du moment où elle l'a vu, c'est vrai qu'il y a un point de non-retour.
Oui,
tu peux pas.
Je pense que d'un côté,
il voulait l'achat, il s'est trouvé un prétexte.
Il s'est dit, je lui ramène.
Prétexte.
Si jamais elle
est pour, tant
elle
mieux.
Kiffe, on va le garder. Les autres personnes ne vont savoir qu'on l'a pris.
Voilà.
Alors que si.
Mais oui.
Et si jamais elle veut pas, je le ramène.
Et je suis même pas sûr qu'il voulait le ramener. Je pense que la femme a été un peu le prétexte dans l'histoire.
On est d'accord.
C'est vrai qu'à ce niveau-là, quoi. Non, mais c'est très, très intéressant parce que c'est quand même très, très recherché pour aller trouver ce truc-là, savoir comment... Toi, quand tu m'en as parlé, j'ai pas eu le même effet, une parenthèse que j'ouvre et que je referme très vite, j'ai pas eu le même effet avec, comme je t'avais parlé, du film, de la série là, avec Bryan Cranston. Là.
Ah, Your Honor.
Your Honor.
Ouais,
qui est aussi dans une
logique... Mais moi, j'ai pas aimé. Hein, comme, enfin,
moi, j'ai pas aimé non plus. Bon. On en reparlera une autre fois.
Oui,
mais voilà, la filiation, pour moi, c'était pas du tout la même chose. Et là, alors que là, effectivement, il s'est lancé dans un truc, il en a payé aussi le prix.
Ah oui, totalement. Ça. Walter a souffert de ses choix. Et il en a souffert énormément.
Mais Walter Net aussi, même si.
Ah oui, mais Walter Ego est tout aussi. En fait, tu vois que c'est les mêmes personnages, sauf qu'ils ont vécu différentes façons.
Oui.
Après, Walter Ego, même si c'est pas bien, il est dans son bon droit. On est dit dans son monde, kidnapper son enfant.
Bien sûr.
Si on a kidnappé mon enfant, je vais tout faire pour le retrouver.
Bien sûr.
Et du coup, ça veut dire qu'il y a des gens. Et en fait, il ne savait pas pourquoi le Walter qu'on connaît a kidnappé l'enfant.
Ouais.
Donc lui, ce qu'il se dit, c'est des gens viennent dans notre monde pour kidnapper nos enfants.
Ouais.
Faut que je protège mon peuple.
Bien sûr.
Donc je vais mettre tout en œuvre pour détruire le monde d'en face.
Bien sûr.
Et du coup, ouais.
Parce qu'à partir du moment, où ils ont montré que c'était possible d'être fait, il n'y a aucune raison qu'ils arrêtent.
Et surtout que le fait que Walter. Et créer une incursion fait que le monde de Walter Hugo est malade.
Complètement,
ouais. Ah oui,
tu vois,
ça fout un l'air malade. Ça fout un l'air tout.
Les
ça,
trucs c'était... d'ambre et tout, tu vois, ah, ça, ouais, c'est, voilà, c'est terrible. Tu te dis, ouais, quand même, c'est.
C'est une menace.
Ça crée de grosses conséquences.
C'est une menace.
Et je pense que Walter là, il n'avait pas conscience de ce qu'il a créé de l'autre côté, tu vois.
Des effets, en fait, son acte.
L'effet papillon. C'est la logique de l'effet papillon.
En vrai, moi, la réaction de Walter Hugo, je la comprends. Surtout quand tu es, du coup, président, pour le coup, et quand tu sais.
Bah, était ouais.
Si Walter Hugo est ouais. Ah non, conseiller oui, était... secrétaire d'État ministre de la défense pour nous. Ouais. Mais oui, et je sais moi je pensais qu'il était président, je sais plus pourquoi.
Mais je crois que non parce que enfin ouais, il me semble.
Mais moi
en tout cas, il a une place.
Oui, il a une place haute en tout cas, oui. Ouais, et c'est là que tu vois Walter enfin si Walter n'avait pas fait tout ça, il aurait été quelqu'un dans Ah ouais, mais quand tu le vois, c'est
oui,
il est fascinant.
Mais de toute façon, c'est ça l'idée, c'est d'avoir justement quand tu parlais de tu fais un choix et ouais, puis voilà, et tu vois le truc, ça prend une trajectoire. Moi, je me rappelle bien de cette scène là où les deux, quand les deux Olivia se rencontrent et que bah, l'une, les deux se méfient et tout, et que l'Olivia du monde 1 est en train de la mettre en joue et tout ça. Et à un moment donné, elle prend son sac, donc elle lui dit non, non. Elle récupère le sac pour essayer de voir si... Ouais. Et l'autre lui dit, bah ouais, parce que toi, tu mets ton flingue dans mon sac, moi je le mets dans mon truc. Et elle renverse la situation. et c'est intéressant de voir que finalement, elles sont si proches et si loin.
Regarde les deux Walter. Là, pour moi, en fait, je vais ouvrir une petite parenthèse. John Noble, quel acteur.
C'est un acteur.
Parce que quand tu vois le Walter dépressif, qui a des problèmes à gérer ses émotions, qui n'arrive pas à parler de manière rationnelle, et que tu vois Walter Ego,
c'est deux personnages différents.
Tu dis, l'acteur, il est trop fort.
Il est fort.
Est trop fort.
Ouais, et je crois qu'il a eu une récompense, je ne sais plus pourquoi. C'est peut-être les Saturn ou les Critics Awards. Mais pour moi, il aurait mérité un Emmy.
Oui,
pour
là,
en tout cas, à la saison 3, c'est un Emmy qui méritait.
Bah, c'est vrai incroyable. Que c'est forcément, c'est pas automatique, mais c'est forcément quand tu as joué deux personnages qui sont les mêmes, enfin, qui sont physiquement les mêmes, mais qui ont deux dimensions. Effectivement, là, tu es obligé de vraiment puiser.
Oui.
Parce que tu dois reconstruire un autre personnage. Et c'est ce qu'il a fait très bien. Parce qu'effectivement, on sent bien qu'il a eu une trajectoire qui l'a mené, lui, à avancer, à sortir de la logique. D'ailleurs, je crois qu'il le disait une fois, il me semblait, quand on disait, mais il y a un gars qui lui disait, mais est-ce que vous. Au Alter Ego, hein, puisque moi, je l'appelais au Alter Net parce que je voyais en VO, et il disait à Walter Net, à Walter Ego, mais vous ne regrettez pas d'être, ne plus être scientifique. Et il dit, si, non, je suis toujours scientifique, mais mon terrain de jeu est plus grand.
C'est
important.
C'est ça.
Mais il y avait vraiment.
Oui, c'est vrai.
Il y a vraiment. Et puis il y avait tous ces petits détails. Il y avait des petits détails qui sont très, très forts.
Ici et là, tu vois.
Ouais, pour voir les trucs.
En fait, quand tu ne les vois pas de prime abord, tu dis, voilà, c'est un détail machin. Mais quand ça prend son ensemble, quand ça s'imbrique. Tu mais oui, tu as
dit,
mais voilà.
En fait, ils t'avaient envoyé, le signal.
Ils t'envoient tout,
tu vois. Eux, ils t'envoient tout pour que tu comprennes, mais ils te mettent pas dans l'ordre, tu vois.
Mais bien
et c'est
sûr.
Toi qui arrives à constituer au fil de la série, et tu te dis,
c'est génial. Et ça, j'adore ce côté puzzle c'est dans incroyable. Fringe où t'es là, tu te dis, ah ouais, en fait, on m'a bien piégé. Et
c'est
j'adore,
ça.
J'adore ce.
Moi, j'aime trop ça.
Bah oui.
C'est tout à fait ça.
Être mené un petit peu par ça, c'est évident. Mais ce qui est vrai pour John Noble, pour Walter Bishop, mais aussi pour Olivia Dunham, hein, les deux personnages qu'elle joue.
C'est ça.
Aussi,
mais oui. Mais après, pour le coup, hein, moi, je trouve que Walter, quand il est présent sur une scène, bah, il vole la vedette à tout le monde.
Tellement.
Même, et j'adore Olivia Dunham pour le tout. Mais. Just not, même que ça soit Alter Ego ou Walter,
il est trop fort.
Il vole la vedette et c'est
phénoménal souvent,
de
c'est
voir
souvent
ça.
Quand les rôles ont plus de matière en fait, c'est parce qu'effectivement il est central. Lance Reddick, désormais décédé, Philip Broyles,
même lui, hein.
il reste quand même assez pareil.
Oui, mais même sa version du coup.
Oui.
Quasiment identique.
C'est juste les vêtements sont un peu différents.
En fait, lui, il a une famille, celui dans le monde parallèle.
Il a une famille alors que l'autre n'en
a pas. L'autre, il n'en a pas. Il est vraiment, c'est boulot, et lui, c'est.
Et comme Olivia d'ailleurs.
Tu sens quand même, même s'il est linéaire, tu sens que le Broyce égo, on va dire, est un peu plus émotif. Et plus touché.
Bah, c'est grâce à lui qu'elle a pu partir, du coup, revenir dans son monde original.
Exactement.
Donc oui. Et tu sens qu'il y a un côté. Bah, c'est parce qu'elle a sauvé aussi son fils.
C'est ça.
Donc tout se rejoint et franchement c'était bien. Franchement c'est tellement bien mené.
Non, mais... Et vraiment, vraiment, hein, on va envoyer une balle perdue, mais Marvel devra en prendre de la graine.
Ah oui, mais...
Parce que... c'est sorti quand, Fridge? Redonne-moi la date.
2008
jusqu'à 2013, ils ont réussi à gérer le multivers, les conséquences, les variants, mais de manière propre. Il n'y a rien à redire.
Et pas en mélangeant plusieurs univers, t'en avais que deux.
Que deux,
et t'arrivais à avoir une cohérence, t'étais dedans, tu comprenais en fait.
Tu comprenais tout.
Même si en fait, c'est ça l'avantage aussi de Fringe, c'est qu'ils utilisent des termes scientifiques à longueur de temps.
Mais tu comprends.
Tu comprends
toujours.
Tu comprends.
Bah, parce que justement, Peter Bishop
est là
pour... et cet élément qui te permet de comprendre.
C'est ça, exactement.
C'est vrai qu'il
qui fait que t'arrives toujours à comprendre de quoi il parle. Tu sais, il y a des épisodes comme à un moment donné, des handicapés qui n'arrivaient plus à marcher.
Ouais. Et après, ils marchent.
Et en fait, on leur injectait un truc qui les faisait voler, mais leur mettait du mercure pour qu'ils puissent rester au sol.
C'est ça.
Et qui t'explique après, voilà, et que Walter, il vient, il explique le truc, tu comprends pas trop, tu fais ah, et que Peter, il vient, il te banalise le truc, il dit d'accord, je comprends mieux.
Oui, c'est un facilitateur.
L'épisode de l'enfant, tu sais, la femme qui tombe enceinte en 5 secondes, là, 5 minutes, la manière dont il t'explique qu'en fait, ça part d'une hormone de croissance.
C'est ça.
Et que en fait Walter t'explique ça mais d'une manière tu te dis mais non, j'ai rien compris.
Voilà.
Et lui il te dit vous voyez l'hormone de croissance, et ben en fait lui il a fait un dérivé de l'hormone de croissance et il l'a donné pour créer des soldats.
Voilà.
Et là tu dis mais en fait oui j'ai tout compris en fait.
J'ai tout compris. Mais t'as plein de choses comme ça.
C'est vrai qu'il facilitait les choses.
Ah oui, clairement.
C'est pour ça qu'au début on comprenait pas pourquoi, parce qu'il était juste un accompagnateur, mais on voyait effectivement.
En fait, non,
et puis après qu'il avait aussi qu'il était aussi le lien.
Et c'est là même quand tu comprends Olivia qui te dit. Bah en fait, il est trop important. Sans vous, je pourrais pas avancer dans les enquêtes. Parce que Peter, au tout début, il était réfractaire
Il voulait pas du tout.
Voilà, et quand. Bah,
vu qu'avec son père, il s'entendait pas, il voulait pas. Et pareil, j'ai bien aimé aussi.
Surtout quand il apprend aussi justement le secret.
Ah ouais.
C'est encore. Il apprend au début, il en peut plus. Tiens, il est au bord de la rupture. Finalement, il se ressaisit. Et tu vois que même si l'équilibre est toujours fragile entre Walter et Peter. Tu sens quand même qu'il y a
un certain lien.
Ouais, un certain lien, tu vois.
Il est beau, le lien.
Même si tu regarderas bien, que, et je souscris totalement, mais Peter appelle son père Walter et Walter.
La seule fois où il a appelé papa, c'est à la fin de saison. De la fin de la série, même.
Ouais, c'est possible.
Parce que quand Walter, il traverse le portail pour emmener, et il l'appelle papa. Mais je crois qu'il l'a appelé une autre fois papa, mais je me souviens plus.
Ouais.
Mais ça m'étonnerait pas qu'il l'ait appelé papa.
Ouais, je pense que ça lui aurait venu deux fois.
Ouais, voilà.
Mais généralement, c'est ça. C'est ça. Walter.
Ah, peut-être à la fin de la saison 3, quand ils sont dans le futur, et que Walter explique à Peter qu'en fait, le temps, il n'est pas linéaire. Ce qu'il a fait, bah, il peut être changé parce qu'il maîtrise la machine. Je crois qu'à ce moment-là, il l'a appelé papa. Mais je ne peux pas être sûr. Mais en tout cas, pour la fin de saison, la fin de série, je suis sûr qu'il l'a appelé papa. Et du coup, j'ai quand même envie de parler pour vous. C'est qui votre meilleur personnage? Sans aucun doute, peut-être.
On a beaucoup parlé de Walter. Donc effectivement, ça serait...
Ou peut-être votre meilleur duo.
Mais
j'ai bien... Parce qu'il y a beaucoup de duos dans cette série, quand même. Il y a des bons duos et peut-être votre meilleur duo. Parce que c'est vrai que le meilleur personnage, en vrai, c'est Walter.
Moi, je pense effectivement que Walter, on pourrait dire Walter, ce serait peut-être l'élément le plus simple.
Ouais.
Moi, il m'a beaucoup intéressé aussi, comment il s'appelle William Bell.
William Bell
m'a pas mal intéressé.
Leonard Nimoy. Très fort.
Ouais, bah oui, parce qu'effectivement, en plus, ils ont fait tout un mystère autour de lui. On voyait qu'il avait que des.
Quand tu le vois arriver, c'est emblématique son arrivée.
Bien
parce
sûr.
Que c'est Leonard Nimoy. Tu le vois, t'es. Waouh.
Il y a du charisme,
c'est ça,
en fait.
Ouais, c'est ça.
Okay.
Il y a du charisme là-dedans, effectivement. Donc, effectivement, globalement, on pourrait dire ça. Ouais, parce que je pense que c'est effectivement Noble, même si je pense que le personnage d'Olivia aussi... C'est difficile à choisir. Hein.
Moi,
c'est
difficile. Moi, je dois choisir un duo, et ça va être un duo atypique. Ouais. C'est dans le monde de Walter Ego, Lincoln Lee et Olivia Dunham.
C'est à vous que j'aimais bien ce
J'aimais bien ce duo. Il y avait une super bonne dynamique, tu vois. Ils se comprenaient. Ils avaient l'habitude de bosser ensemble, et ils se comprenaient très bien.
Ouais.
Et ça te montrait que comment Olivia aurait pu être...
si elle faisait confiance.
Une différente et si elle faisait confiance, tu vois. Ouais, ce duo-là, vraiment, je l'aimais beaucoup.
Oui,
vraiment,
c'est vrai qu'il était beau. Ce duo. J'aime bien. Moi, j'ai deux duos préférés et ça rejoint Walter, pour le coup. Déjà, c'est Walter et Astrid.
Astrid, ouais.
J'adorais ce duo. C'est incroyable. En fait, il y avait un côté où c'était assistante docteur.
Mais super
des
tendre
fois,
à la fois,
tu vois. T'avais l'impression qu'en fait, Walter voyait en Astrid comme sa fille qu'il a jamais eue.
C'est ça.
Il était très proche d'Astrid et c'était.
Il avait du mal à donner son prénom.
Même si, oui, Astro, Astérix.
et en parlant de ça, je me rappelle d'un épisode. Alors, je pense que c'est celui-là où Walter se fait enlever, je crois, et Astrid n'arrive pas à le défendre. Ouais. Et elle se retrouve blessée. Et quand elle retrouve Walter, elle est blessée. Mmh. Et Walter, il est là, il s'excuse limite.
Il n'arrive pas.
Et là, vraiment, tu vois qu'ils ont vraiment un grand lien.
Je crois
lien,
que c'est l'épisode où il se fait kidnapper par... comment il s'appelle ? Newton. Mmh. C'était l'agent de Walter qui est venu pour le prendre de cerveau. Et que Walter, lui, il était dans cette phase où il avait envie de sortir. Et il était un peu rebelle. Ah non ! L'épisode de la médecine chinoise. C'était celui-là.
Effectivement.
Ouais, les serpents qui sortent de la bouche parce que le gars qui voulait soigner, c'était ça. Et du coup, il avait fui et c'était là-dessus.
Ouais.
Et
je me rappelle quand il la retrouve et qu'il voit qu'elle est blessée. La tête de Walter, je dis, non, ça c'était pour faire pleurer ça.
C'est
trop fort.
J'adorais ça.
Ah, incroyable.
Et le deuxième duo, je dirais, c'est Walter et William Bell. Pour moi, il est iconique.
En vrai,
à chaque épisode où ils étaient tous les deux ensemble, même l'épisode animé, puis il n'y avait aucun moment où les deux personnages étaient... Et en fait, ils se tiraient des balles dessus, mais tu sentais qu'il y avait une belle amitié entre les deux.
Mais en fait, ils se complétaient, ils se complétaient. C'est d'ailleurs c'est pour ça que finalement, un est de l'autre côté et l'autre est resté là et... Effectivement, oui, c'est un problème de en fait, quand ensemble, ils étaient capables de faire des choses impressionnantes.
C'est ça.
Et ce qui est intéressant, c'est de savoir que quand William Bell est de l'autre côté, il n'a jamais rencontré... Il s'est jamais associé
avec il savait que ça n'allait pas être pareil. Mais dans l'épisode de la fin de la saison 4, où les deux se retrouvent et que du coup, pour le coup, William Bell est un méchant...
Ouais.
Il y avait quand même cette alchimie et c'était toujours plaisant de les voir tous les deux.
Totalement.
Et franchement, ce duo-là, et on le voit très peu. Hein. Je crois que dans l'intégralité, tu dois les voir dans 6 épisodes sur 100. Mais quand ils sont tous les deux.
Oui, quand ils règlent leur compte, à un moment donné, ils règlent leur compte parce qu'ils doivent essayer de repartir et tout ça. Et je me rappelle très bien qu'ils essayaient de. Ils réglaient un peu leur compte et même Olivia dit bon, c'est bon, on va arrêter un petit peu. Quoi. Mais il y a aussi un personnage, alors un peu moins, peut-être plus en retrait, mais qui aussi m'a beaucoup intrigué pendant très longtemps, c'est celui de Nina Sharpe.
Ah,
je trouvais aussi. Ouais. C'était
était mystérieuse.
Elle était toujours entre deux. Tu sais jamais si c'est du lard ou du cochon.
Pas, voilà.
Et à un moment, tu t'attends à ce que trahisse, mais.
Oui, voilà, c'est ça. Parce que,
beaucoup d'affection pour Dunham. Et ça, c'était bien aussi. Ouais. Il y avait un peu cette relation mère-fille.
Et tu la vois après que dans la saison 4, parce que c'est elle qui l'adopte.
Ouais.
Elle adopte Olivia après ce qui s'est passé.
C'est ça.
Mais oui. Tout à fait.
Pas mal.
Bah, avant-dernière, parce que on peut pas faire beaucoup. Malheureusement, j'aurais aimé en faire un peu plus.
Journée.
Franchement, oui.
Ouais.
Mais du coup, j'aimerais bien avoir votre meilleur épisode ou votre meilleur moment, si vous vous rappelez plus, du meilleur épisode.
Oh, c'est dur, parce qu'il y en a beaucoup. Hein.
Exactement.
Le problème, c'est qu'il y en a trop.
Je suis tout à fait d'accord avec
vous. Moi, un qui m'a touché, deux épisodes qui m'ont touché particulièrement. On va dire après que je suis un homme qui aime l'amour.
Mais non,
c'est
beau. Deux
épisodes qui m'ont touché particulièrement. Il y a celui qui se passe dans un hôtel où t'as un mec invisible.
Ah non, c'est un bâtiment. Mais voilà, je vois très bien.
Où le mec, il est invisible. Ouais. Et il attaque les mecs en leur prenant un truc dans la nuque.
Pour pouvoir...
Juste pour pouvoir parler à une fille, tu vois.
Ouais.
Et à la fin de l'épisode, elle le remarque.
Parce qu'il avait... Enfin, à cause du FBI qui le recherchait, du coup, il n'a pas pu être dans l'ascenseur le matin. Et là, il a refait le lendemain.
Voilà.
Et la ville lui dit je me suis inquiété pour vous, je vous ai pas vu. Et là,
j'avoue. Et tu vois qu'il peut mourir parce que finalement, quelqu'un, la personne qu'il aime,
l'a remarqué.
Tu vois.
Et ça, c'est beau.
Ça, je trouve ça beau, tu vois.
C'est beau, je suis tout à fait d'accord.
Il a fait des dingueries, mais juste parce qu'il voulait être remarqué, tu vois.
Ouais.
Et je trouve ça trop beau. Ouais. Celui-là, et celui du mec qui est handicapé parce qu'il donne sa moelle épinière à sa femme qui est malade et qui tue des gens. Et bon, pas qu'elle tue des gens, il donne sa moelle épinière et à la fin, il fait le sacrifice.
C'est le vampire là, c'est voilà, le vampire, c'est ça. Ouais, ça c'était dans la saison 1, je crois, l'épisode 17.
Et il fait le sacrifice.
Ah ouais, tu connais.
Ouais, si, je m'en souviens très bien.
Il y en a plein, mais vraiment, ces épisodes m'ont particulièrement marqué. Tu vois.
Ok, très bien. Est-ce que toi.
Moi, il y a de bons moments, il y a effectivement le twist des tours jumelles, ça c'est sûr. Il y a le fait aussi que finalement, aussi quand Olivia se retrouve coincée de l'autre côté, c'est intéressant. Mais moi, il y en a un aussi qui m'avait bien plu, parce que c'est toujours un peu l'effet papillon qui est intéressant. J'essaie de me rappeler, il me semblait qu'il y avait un gars qui arrivait en fin de compte à prédire les probabilités.
Oui,
oui.
Saison.
Et je ne sais plus quelle saison, mais ce mec-là.
C'est la saison 3 et c'est l'épisode.
Enfin, en tout cas, un moment donné.
Non, saison 4. Non, saison 4. Parce que.
Saison 4.
C'est le gars, en fait, qui mettait un stylo.
Il a mis un stylo.
Oui, saison 4.
C'est tombé, ça a permis. Une réaction en chaîne.
C'est incroyable, là.
Et en fin de compte, comment. Je pense pas que ça soit la saison 3. Parce que, saison 4, parce qu'en fin de compte, Olivia était encore là et il s'est trompé. Parce que Olivia, elle ne venait pas de ce monde.
Saison 3. Voilà,
elle n'était pas le truc là, je sais plus quoi, elle devait prendre le truc là.
C'est l'épisode 3.
Quand l'air était plus bon.
Voilà, c'est ça.
Et elle n'a pas fait le. Elle n'a pas eu le réflexe.
Voilà, de le prendre.
Et donc, du coup.
Ça n'a pas marché.
Parce que lui, il anticipait.
Parce qu'il anticipait le fait qu'elle était obligée de prendre avec le signal. Je crois qu'il s'est.
Mais comme elle est de l'autre terre, elle connaît pas ce logo.
Ce truc-là.
Oui, il a raison. Saison 3. Saison 3, épisode 3.
Et moi, j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé cet épisode génial.
Il a trouvé raison. Et saison 3, épisode 3.
Mais
oui,
parce que je ne sais pas si c'est épisode 3.
Si, c'est ça, épisode 3.
Ah, d'accord.
Épisode 3.
Ok, d'accord.
C'est bon. Maintenant, tu m'as dit ça parce que le fait de dire le logo, c'est bon. Oui,
c'est
raison, parce que c'était pas le 4.
C'était pas la saison 4. Mais en tout cas,
mais
le gars là qui effectivement. Et qu'en fait, après, il se prend. Parce qu'il court à un moment donné, il se croit qu'il.
Et après, il s'arrête.
Il s'arrête et va dire. Tu vas te casser la gueule. Et finalement, ah ben merde, c'était pas ce qui était prévu. Et puis du coup, comme il ne s'échappait plus, là, il le chope. Et le mec, effectivement, parce que finalement, toutes ces statistiques et ces probabilités se sont effondrées parce que la personne qui était là n'était pas de ce monde. Et ça, c'était bon.
Et moi, j'ai kiffé ça parce que c'est là tu vois que c'est scientifique un peu parce c'est que ça. C'est des il a tout prévu parce que c'est des statistiques il a prévu, il a dit
toutes les possibilités,
il y aura ça comme possibilité, et là il a fait ah merde. Et en plus j'ai adoré parce que c'était un personnage qui montrait pas d'émotion, était là tata, et après quand il fait ça, j'avais pas prévu ça.
C'est cet épisode là, je crois que c'est cet épisode là qui m'a vraiment si on devait en choisir un, ce serait peut-être celui-là.
D'accord. Moi, mon épisode préféré. Après, j'ai envie de dire toutes les fins de saison parce qu'ils m'ont marqué. Mais moi, en fait, si on remarque bien, les meilleurs épisodes, c'est des épisodes un peu individuels où il y a pas de. Enfin, les enquêtes sont pas sur plusieurs épisodes.
Ouais.
Et moi, c'est l'épisode du gars qui voyage dans le temps pour sa copine, juste pour retrouver sa copine et mourir avec sa copine. C'est un gars qui a mis des horloges et une cage de Faraday sur lui. Et c'est l'épisode juste après que Walter.
Ah, c'est le mec qui joue. Attends, c'est lequel? C'est Peter Wheeler.
Oui, c'est ça, exactement.
Peter Peck. Incroyable.
La conversation qu'il a avec Walter sur, en fait, les erreurs, parce que Walter venait de sortir l'épisode où il dit qu'il a tué. Enfin, il est allé chercher Peter et les conséquences. Et lui, il lui dit oui, mais si tu voyages dans le temps, tu vas mourir, tu vas créer des morts. Après, il dit, oui, mais non, si je fais ça dans un terrain neutre, je vais purger l'énergie naturelle. Et même, enfin, le côté sentimental, pour le coup, même, tu vois, en fait, le gars voulait juste mourir avec sa copine.
C'est ça.
Et ça, j'ai trouvé ça incroyable.
Oui, c'est un sacrifice, en fait.
Et même le côté déjà vu, quand il t'explique qu'en fait, le déjà vu existe, c'est parce qu'en fait, si t'as déjà un déjà vu, c'est parce que tu suis ta destinée. C'est et ça. T'as Peter qui dit bah, moi j'ai jamais eu de déjà vu.
Voilà. Et tu comprends ce que tu vois. C'est ça, c'est fort. Tu sais, c'est des petits trucs comme ça. Il dit mais oui, voilà.
Et j'ai adoré. Enfin, ça, c'est un épisode que j'ai vraiment adoré. Après, meilleur moment, je dirais l'histoire de Peter quand même.
Allez.
Je suis désolé, l'histoire de Peter, c'est celle qui. Franchement, je me souviendrai toujours de cet épisode parce que. Bah, je l'avais revu en replay. Mais tu sais, c'était le dernier épisode des deux épisodes du soir. Et j'étais là, je m'attendais pas à ça. J'ai dit, déjà juste la fin de l'épisode où l'épisode 15, où tu vois qu'en fait Peter il vient du monde alternatif, je crois, ok. Et là, je vois l'épisode, en fait, le bad one, et t'as Walter qui est en mode, ben voilà, je t'ai tout raconté, et t'as Olivia qui reste sans voix, en fait, et qui dit, mais moi, je sais pas qu'est-ce que j'aurais fait aussi, et je te comprends un peu, mais c'est grave ce que t'as fait.
Voilà, c'est ça.
Et franchement, moi, j'étais comme ça, en fait, je me suis dit, c'est trop grave ce qu'il a fait, mais...
Mais est-ce que
t'aurais pas fait la même chose ? Et le corollaire, même de ça, de ce que tu dis, c'est aussi quand Peter rencontre sa mère.
Ah oui.
C'est quand il y a cette pudeur. Parce que la mère, elle a une pudeur, en fin de compte.
Bah oui.
Elle n'ose pas avancer parce qu'en fin de compte, elle estime qu'elle n'a plus le droit, finalement.
Ouais, c'est qu'elle n'a pas élevé, tu vois.
Elle n'a pas élevé. Et en fin de compte, et finalement, ils finissent par se serrer l'un contre l'autre. Mais cette mère qui est là, comme ça, qui a deux mètres de son fils, qui ne sait pas comment parler, qui ne sait pas comment le prendre, mais qui lui parle, qui lui dit des choses... Tu vois, parce que moi, je la sentais vraiment sincère. Le père, bon, lui, il l'a aussi, il était pour l'utiliser aussi en grande partie. Mais elle, effectivement, elle avait cette pudeur. Moi, j'ai trouvé ça super touchant, en fait.
C'est vrai que c'est super beau. Mais je reviens là-dessus. Mais, franchement, ouais. J'ai pas les mots. Je pense que.
Ah, quel épisode ça.
Non, mais cette série. Voyez cette série, même quand vous écoutez ce podcast, voyez-la parce que elle est juste magnifique.
Regardez
Fringe.
Elle est
juste magnifique.
Vous là-bas aussi, regardez Fringe.
C'est la série.
C'est incroyable.
Mes enfants, je leur dis de les regarder.
Si je suis là devant les gens, là, si je parle de séries et de films, c'est grâce à elle. Enfin. J'étais en 2008, j'avais 13 ans, j'ai regardé cette série, je suis tombé amoureux des films. Ça veut dire au début j'aimais les Marvel, mais les films, c'est Fringe. Ah ouais, sans Fringe, je serais pas là, en fait. C'est une dinguerie. J'ai envie de pleurer, mais je vais pas pleurer.
Non. À ce point-là.
Non, quand même pas.
Non, même si tu peux dire qu'effectivement, quand tout à l'heure tu faisais le parallèle avec Marvel, effectivement, il y a des choses quand même que. Alors, je dis pas que Marvel s'en est inspiré, mais ils ont bien géré, en tout cas, dans Fringe. Mais c'est vrai que quand tu regardes les mondes parallèles, quand tu regardes aussi le choix. Parce qu'au fond, tu te dis que dans le monde alternatif qu'on nous propose, tu te dis qu'il y a des choix qui ont été faits. Est-ce qu'ils ont été, par exemple, plus écolos que les autres ? Est-ce qu'ils ont été peut-être mieux, mieux moralement ? Parce qu'on regarde, par exemple, moi, je me rappelle très bien de ce détail, dans le monde alternatif, quand à un moment donné, il récupère un gars du monde normal, et qu'il a un billet... de je ne sais plus qui, d'un président, et eux, ils sont un billet de Martin Luther King.
Oui.
Martin Luther King, donc, a été président. Voilà. Ça nous dit que Martin Luther King a été président dans l'histoire.
Ça
nous montre aussi qu'il y a une photo, à un moment donné, sur le bureau de Walter Net, où on nous montre que John Kennedy est vieux. On voit le visage de John Kennedy vieux. Tu vois
Tout s'est passé différemment.
Tout s'est passé différemment. Et puis, même s'ils sont très radicaux avec les histoires de l'ambre et tout ça, mais en termes de capacité médicale,
ils sont largement au-dessus.
Le gars qui est brûlé, comment il s'appelle
Lincoln.
Ouais.
Oh là là. Et que finalement, quand tu le vois dans la gueule, tu dis mais comment et les mecs ils sont tranquilles, ils se disent non mais ça va lui coûter quand même 3 mois de machin de rééducation.
Mais
il va s'en sortir. Et là tu te dis ah ouais.
Chez nous, c'est fini. Voilà. Mettez-le en soins palliatifs. Voilà, c'est
voilà. On ne peut rien, faire. Et ça commence à machin. Et tu vois là, tu regardes des trucs, tu dis qu'ils ont avancé, ils ont un fonctionnement. Olivia,
du coup, tu te demandes, est-ce que ça fonctionnait déjà comme ça avant, ou est-ce que c'est l'incursion de Walter qui a récupéré Peter,
qui a fait
qu'ils ont dû s'armer et être plus développés, tu vois.
Par contre, ils étaient plus développés.
Effet papillon.
Du coup, c'est le Walter Ego qui a trouvé le médicament alors que l'autre ne l'avait pas. On voyait quand même un avancé, et tu te souviens, il y avait les montgolfières, je ne sais pas comment on appelle
les
ça.
Les éplins, enfin des genres de dirigeables.
Les dirigeables. Ouais. Eux, ils les maîtrisaient avant. Mmh. Ils disaient qu'il y avait une avancée quand même technique dans le monde alternatif. Mais j'avoue que les incursions ont augmenté aussi ça.
C'est ça.
Oui, c'est ça. L'effet papillon a toujours un effet de les conséquences de ça, quoi. Effectivement. Ouais. Non, c'est.
Surtout là, même quand ils mettent les soldats, qui mettent le truc dans le palais.
Ah ouais. Ouais.
La forme des autres.
Les transformes.
Les métamorphes.
Les métamorphes. Voilà, les métamorphes.
Incroyable.
Tout à fait. Écoutez, j'ai une dernière question.
Oui.
Est-ce que vous souhaitez un revival ou un reboot de la série? Vu que c'est un peu la mode du moment, on l'a eu avec les 4400,
moi je dirais non. Je dirais non, mais c'est égoïste. Je le dis en disant ça parce que finalement, là, je pense qu'à moi, Je pense que la série, elle se vaut en elle-même maintenant. Elle n'est pas encore suffisamment dépassée pour qu'on puisse envisager ça. La seule chose qui m'a un peu gêné dans la série, malheureusement, je trouvais, et on n'en a peut-être pas, on en a pas parlé, mais c'est la saison 5, j'ai trouvé que bon, elle a été un peu, je veux dire, voilà, on a fait des projections d'un coup, là, on a fait la famille entre Olivia et Peter, bon, voilà, et la jeune fille, enfin, bon, voilà. Bon, ça, c'était après, malheureusement, mais on sent qu'il fallait finir. Il fallait finir.
Après,
et que...
il y a eu des bons moments, comme Peter qui essaye de devenir un observateur, ça, j'ai trouvé ça très fan service, peut-être, voilà, ouais, mais c'était kiffant. C'était marrant, juste, en fait, de se dire, ah, ça va être cool, ça.
Voilà,
sans
tu vois.
Plus, mais
voilà.
Je suis d'accord. Non, toi, tu souhaites un revival ?
Non, je suis comme Patrice, hein, c'est ça.
Oui, c'est ça.
Je suis comme toi, non, la série, elle est très bien comme elle est, mis à part la dernière saison. Faire un revival, ce serait, on va trop la comparer.
Oui.
Et on va vouloir avoir un Walter aussi bon que lui et ils trouveront pas.
Et
aujourd'hui, je vois pas d'acteur qui pourrait le remplacer. Et
il y en a certainement, mais il y a trop de détails. Ouais. Ils seront obligés de refaire des détails.
C'est ça.
C'est déjà bien fait.
Refaire une suite entre guillemets, c'est trop vieux.
Mm. Ouais,
il aurait fallu peut-être plutôt la faire. Pour peut-être faire une saison transitive entre la 4 et la 5, montrer comment les observateurs ont décidé de venir attaquer les humains pour prendre le pouvoir.
Un reboot, un machin.
Mais là, non, elle est très bien comme ça. Non,
ouais, moi, je suis du même avec vous, j'ai même rien à rajouter. Franchement, moi, je veux pas. Aller la regarder.
Voilà.
Et aller la regarder aussi parce qu'elle
a bien vieilli.
Elle a bien vieilli. Et puis, vous allez reconnaître beaucoup de visages de personnes que vous connaissez maintenant aujourd'hui.
Ouais.
Et qui ont travaillé.
T'Challa,
qui joue dedans.
Ouais. Meghan Markle a joué dedans.
Il y a
beaucoup de guest stars.
Les jumeaux
Ashford qui jouent du coup. Le gars Glaçon dans X-Men.
Ouais, de X-Men.
Ouais. Non, mais je suis tout à fait d'accord.
Il y a même Diane Kruger qui était à l'époque la compagne de Joshua Jackson à l'époque.
Elle est juste venue pour un caméo où elle se fait tuer par un gars qui transférait les tueurs.
Oui, oui. Non, mais la fille est vachement pistonnée. Comme je t'ai dit, c'était la compagne de Joshua Jackson à l'époque qui joue Peter. Mais bon, c'est drôle.
Quand tu regardes, t'en as plein. Après, tu vois, c'est incroyable.
Mais en tout cas, voilà. Merci beaucoup, en tout cas, les gars. C'est votre
inspiration.
Merci à toi pour l'invitation, effectivement. Là, on était en mode fan, complètement.
C'est ça, exactement. Et on adore ça.
C'est ça, vrai fan.
Du coup, Ben, on peut le retrouver sur La Vie de Ben. C'est ça.
Instagram.
Il fait des podcasts aussi, L'Heure des Geeks.
L'Heure des Geeks.
TikTok.
C'est ça.
Voilà, Patrice, c'est ton compte Insta.
Mon compte Insta, mon compte Twitter aussi, Patrice Ferrus. On peut toujours.
On te retrouve aussi sur le journal de TV5 Monde. Hein.
Oui, aussi. journal de l'Écho et peut-être même.
Un gars de qualité.
Un homme, quelqu'un. Quelqu'un.
Un photographe aussi à 16h perdues.
C'est ça. Et mes heures retrouvées aussi.
Et je vous remercie beaucoup parce que ce podcast-là, je l'attendais tellement.
Merci à toi, vraiment, merci de nous avoir invités.
Je crois que j'ai créé l'émission La Salle juste pour faire ce podcast. Ah. Je vais arrêter maintenant.
Voilà, c'est bon.
Sachez que je ne reviens plus.
La boucle est bouclée, c'est bon, peut y aller. Voilà.
Maïk, cherche-toi un autre présentateur, bonne chance à toi.
Il est déjà en quête.
Voilà. Cherche déjà, c'est bien. Voilà.
Et d'un mot aussi, ce générique aussi.
Le générique était adapté en fonction au monde par rapport au truc.
Allez le voir. C'est sur Prime, c'est très beau.
Du monde, tu vois, plein de trucs, mais bon. Allez voir Fringe.
Comme tu l'as dit, c'est sur Prime, faut aller voir.
C'est sur Prime,
c'est disponible pour les gens.
5 saisons, allez la voir.
Et je vous remercie toujours de nous écouter, d'être là. Et n'hésitez pas à nous suivre sur La Salle, La Vraie Confrérie et Meet You Movie. Et comme on vous le dit, à la semaine prochaine ou à dans 2 semaines, au prochain épisode, tout simplement.
Salut.
Tchuss.
50 000.